Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Mon nom est Sophie Durocher.
Sophie Durocher. Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bon mercredi, j'espère que vous allez bien. Écoutez, il y a plusieurs politiciens qui ont dû un petit peu avaler leur café de travers ce matin en regardant les résultats des sondages publiés dans le Journal de Montréal, Journal de Québec. Les intentions de vote au provincial, ben vous le savez, hein, au mois d'octobre, on s'en va en élection. Ce qui est le plus surprenant, selon moi, c'est que tout le monde s'attarde sur le fait que les chiffres de la CAQ ont baissé. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'ils aient si peu baissé. Écoutez, ça fait 2 ans que le gouvernement Legault est empêtré dans cette pandémie absolument épouvantable. Le 13 mars, ça va faire exactement 2 ans qu'on a fermé quasiment les portes du Québec, qu'on a mis tout ça sur pause, qu'on a mis le Québec sur pause, et que malgré tout, malgré la tempête, contre vents et marées, que la CAQ réussisse à se maintenir avec 42% des intentions de vote et quand même une cote de popularité énorme pour François Legault. Moi, je trouve que c'est ça la nouvelle, c'est qu'il réussisse à se maintenir malgré tout. Donc, quand j'ai vu les résultats du sondage de ce matin dans les journaux, j'ai poussé un assez amusé. Ben voyons donc.
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher,
Cube Radio.
C'est pas rien ce qui s'est passé au cours des derniers jours. Les deux plus importants transporteurs aériens au pays qui ont demandé lundi à Ottawa d'arrêter d'obliger les passagers à passer un test PCR lors de leur arrivée en sol canadien. En plus, ça survient au moment où la conseillère scientifique en chef de Justin Trudeau recommande, elle aussi, d'assouplir les mesures à la frontière. On va parler de tout ça avec Moscou Côté. Il est président de l'Association des agents de voyage du Québec. Monsieur Côté, bonjour.
Oui, bonjour, Madame Durocher.
Quand on parle d'assouplissement des règles, on va peut-être d'abord commencer par parler de ces règles-là. Comment ça se passe pour quelqu'un, aujourd'hui on est le 19 janvier, quelqu'un le 19 janvier qui est allé en voyage à l'extérieur du pays, comment ça se passe à son arrivée au pays?
Bon, avant même de pouvoir prendre l'avion pour revenir au Canada, la personne doit avoir été doublement vaccinée, avoir passé un test 72 heures ou moins avant son retour, et on parle d'un test PCR. Ensuite, on prend l'avion. Quand on arrive à Dorval, c'est toujours aléatoire, Mme Durocher, mais maintenant, on teste environ 90 % des voyageurs qui arrivent aux aéroports canadiens, qui doivent être testés là pour un autre test COVID à nouveau.
D'accord. Alors donc, vous dites que c'est aléatoire, mais ça s'applique à 90 % des gens. Alors, je vais vous raconter une anecdote pour commencer. C'est la raison pour laquelle je me suis intéressée à ce sujet-là. J'ai un couple d'amis, je vous rassure, c'est pas moi et mon mari, là, un couple d'amis qui est parti au Portugal au cours des dernières semaines et qui est revenu dimanche dernier. Et dans le couple, lui, on lui a demandé de se tester de façon aléatoire, donc, et elle, non. Donc, lui et elle sont rentrés dans la même maison, dans le même appartement, à la maison, donc, et lui n'a pas le droit de sortir de la maison. Il est en isolement tant qu'il n'a pas reçu son test de PCR. Ça fait bientôt 12 jours et ils ont toujours pas eu les résultats. Donc, c'est pour ça qu'il y a une frustration, c'est qu'on se dit, ben, si vous vouliez imposer une quarantaine, ben là, c'est comme une quarantaine déguisée, finalement.
Oui, c'est un peu ça ce que les gens trouvent injuste, Mme Durocher. Et je les comprends. Alors, faut comprendre que au début, c'était aléatoire et on testait environ une personne sur 5, une personne sur 6. Et là, le ministre Duclos a dit, notre but, c'est d'augmenter la cadence où ce qu'on devient que 100% des gens, donc ça sera plus aléatoire, ça va être obligatoire pour tout le monde. Par contre, la capacité de test mise en place, ainsi que l'infrastructure dans les aéroports ne permet pas encore de tester tout le monde. Donc oui, ils sont rendus à environ 90% des gens qui sont choisis de façon, disons, aléatoire, entre guillemets. Mais malheureusement, les tests prennent aussi beaucoup de temps à arriver. La compagnie Dynacare, qui a reçu le gouvernement, le contrat du gouvernement de faire les tests, ne prennent plus, là, comme auparavant, quand les tests aléatoires concernaient seulement une personne sur cinq. Les résultats sortaient en une journée, peut-être deux maximum. Alors, ce qui était raisonnable là, par rapport à ça. Et on n'avait même pas besoin de s'isoler en attendant son test auparavant. Quand le ministre Duclos a changé les règles au début décembre, il a dit qu'on doit maintenant s'isoler dans l'attente de notre test. Maintenant, comme vous dites, il y a des gens qui attendent là, 7, 8, 9, même dans votre cas, 10, 12 jours avant d'obtenir les résultats. Et c'est ce que les gens trouvent un peu aberrant. Parce que vous savez, si vous avez le COVID au Québec, au niveau provincial, on dit « isolez-vous 5 jours, puis après ça, vous êtes libre ». Alors là, supposons que votre ami qui est revenu du Portugal avait la COVID, on va supposer qu'il l'avait, sans même avoir reçu son résultat, ben d'après les règles québécoises, après 5 jours, il aurait été libre de pouvoir sortir.
Mais
d'après les règles fédérales, il doit s'isoler jusqu'à ce qu'il obtienne son résultat. Et si le résultat prenait 24 heures, tout le monde serait d'accord avec cette logique. Mais là, quand ça fait 12 jours, alors que si vous aviez le COVID au Québec, après 5 jours seulement, vous auriez été libre. Ça devient là, vraiment déraisonnable comme mesure.
Oui, alors donc il y a cette incohérence-là. L'autre incohérence, Monsieur Côté, c'est aussi que on a dit, pour encourager les gens à se faire vacciner, on leur a dit, ben pour voyager, vous avez besoin d'être double vacciné. Si vous êtes double vacciné, vous n'avez pas de quarantaine à faire à votre retour au pays. Ben là, on est en train de complètement défaire ça. Donc, c'est quoi l'avantage d'être double vacciné si, de toute façon, à notre retour, on doit s'isoler pendant une période qui peut être quand même assez longue, qui est l'équivalent d'une quarantaine, en fait?
Oui, quand les tests ont été mis, qu'on a passé, disons, de aléatoire à obligatoire, même si on n'est pas encore rendu là, l'esprit des gens derrière était qu'on attendait normalement une journée, peut-être deux, pour obtenir son résultat. Donc, ça faisait du sens. Et oui, on doit être vacciné maintenant pour voyager, pour prendre l'avion depuis le mois de novembre. Et en effet, vous avez raison, depuis le mois d'août, ils ont dit que ceux qui étaient vaccinés n'étaient plus obligés de s'isoler à leur arrivée. Et là, on a défait ça avec Omicron, parce qu'Omicron faisait peur. Il y avait un très gros risque de contagion. Et on comprend là, que les mesures étaient là parce que la santé prime. Mais là, c'est un peu trop. Là. On doit d'abord passer le test avant de prendre l'avion. Ensuite, on doit être vacciné. Et ensuite, si on est choisi à 90 % aléatoire, on doit s'isoler en attendant notre résultat. Et quand on sait que ça peut prendre là, 10 jours avant d'obtenir son résultat, ben c'est dans le fond, c'est une forme de quarantaine cachée. Là. Il aurait pu dire simplement, bon, isolez-vous 5 jours à votre retour. Si vous n'avez pas de symptômes après 5 jours, vous êtes libre. Le gouvernement a sauvé des millions en tests qui les gens doivent attendre les résultats, là.
Alors, la conseillère scientifique en chef de Justin Trudeau, donc, elle recommande d'assouplir les mesures à la frontière parce qu'elle dit il y a tellement de transmission au pays même, de transmission dans la communauté, que c'est pas les gens qui viennent de l'extérieur qui vont nécessairement contribuer à cette contamination-là. Et en plus, ce qu'elle dit, c'est, ben, les gens se sont fait tester, ils ont fait un test PCR avant de partir, 72 heures avant de partir. Et elle, ce qu'elle tend à recommander serait plus que les gens et aussi ce qu'elle dit, c'est les tests de PCR qu'on fait faire aux gens, là, le fameux Dynacare, ben pendant ce temps-là, on est en train de dire, dans plein de provinces, on n'a plus de tests PCR pour la population, fait que on restreint l'accès aux tests PCR, mais pendant ce temps-là, on a envoyé tous les tests PCR dans les aéroports, alors qu'on en a besoin dans la communauté. C'est un peu ridicule, hein?
Oui, ça me fait penser à un commentaire que le ministre Leblanc avait dit sur les ondes d'une station de radio à Montréal. Et il disait, on sait qu'il y a très peu de contamination liée au voyage international, mais c'est très populaire comme mesure. Il avait dit
non.
Ça en radio. Oui, exactement. Et ça nous avait surpris. Je pense que c'est peut-être... Il s'est échappé quand il a dit ça, mais de dire c'est très très populaire parce que 80 % des Canadiens présentement ne voyagent pas, ne veulent pas voyager avec la pandémie. Donc c'est une mesure qui est simple à appliquer, qui est très populaire auprès de la population. Alors on se demande est-ce que c'est scientifique ou politique comme décision là?
Excellente question. Il faut quand même rappeler, Monsieur Côté, et je trouve que c'est très important de le rappeler, que depuis, corrigez-moi si je me trompe, le 15 décembre, le gouvernement canadien a remis en fonction son avertissement de non-recommandation de voyage non essentiel, parce qu'il l'avait levé, hein, son avis, il avait levé cet avis où on disait aux gens, ne voyagez pas si c'est pas un voyage essentiel. Ben, il a été remis en fonction le 15 décembre. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont annulé leur voyage dans le temps des fêtes sur la base de cette information-là. Donc, moi, je veux savoir, de votre côté, là, vous êtes président de l'Association des agents de voyage du Québec, c'est quoi l'impact quand les gens voient ça? Est-ce que ça leur donne le goût d'annuler leur voyage en disant, ben si je reviens, je vais être obligé de passer 10 jours chez nous? Quel impact ça a, ces mesures-là?
Oui, l'impact, Mme Durocher, a été majeur. Si on regarde au mois de novembre, on était rendu à des niveaux d'environ 35 % du volume de réservation de 2019.
D'accord. Donc,
on n'était pas sorti du bois, là. Je veux dire, faut comprendre, là, quand on était à l'école et on obtenait 35 % de notre bulletin, on n'était pas content. Mais c'était quand même beaucoup mieux que ce qu'on était auparavant, qui était à 5 %.
D'accord.
Lorsque l'avertissement niveau 3 est arrivé, beaucoup de gens ont annulé. Premièrement, il y a eu une grosse diminution des nouvelles réservations. Les gens ont, je vous dirais, environ 35-50% des gens ont annulé leur voyage. Et ça fait effet de boule de neige parce que les avions qui, les forfaitistes pensaient qu'ils partiraient à 60-70% de capacité, qui sont peut-être pas rentables, mais qui sont pas un gros déficit, ben là, ça a diminué, ça a tombé à 35%. Donc, les forfaitistes ont dû annuler des vols additionnels. Ce qui a fait boule de neige et qu'on s'est retrouvé avec environ 70% des voyages annulés. Tout ça parce que le gouvernement dit qu'il est de recommander d'éviter tout voyage non essentiel. Donc, les gens écoutent le gouvernement. Il faut pas se leurrer. Là. Donc, là, on est rendu avec des mesures qui s'accumulent une après l'autre. Donc, au début, c'était le test avant de revenir. OK, on comprend. Ensuite, il fallait être vacciné. Bon, OK, c'est logique, encourager la vaccination. Maintenant, un test à l'arrivée, en plus, qui est aléatoire, mais il faut le dire vite, là, qui est une forme de quarantaine quasiment déguisée. Mais ils enlèvent jamais une des mesures quand ils en ajoutent une nouvelle. Donc, c'est simplement, on empile. Et ce qui est drôle, c'est que dimanche, là, il y a quelques jours à peine, le gouvernement a mis un avis d'éviter tout voyage non essentiel en Ukraine, à cause qu'il disait là, qu'il y avait des potentiels conflits au niveau de la frontière avec les Russes. Mais tous les pays sont concernés en niveau 3.
Mais oui.
Tous les pays ont dit d'éviter. Alors, pourquoi on fait une recommandation spécifique sur un pays comme l'Ukraine? Alors que tous les pays sont couverts par un avis de niveau 3.
C'est bizarre.
Oui, c'est ça. On réagit beaucoup plus qu'on agit, je pense, au gouvernement présentement.
Ah, c'est très bien résumé. Monsieur Côté, je peux pas vous avoir au bout de la ligne sans vous parler de ces différents témoignages qu'on a vus au cours des dernières semaines, des gens pris en voyage qui se disent « Bon, ben finalement, je suis allé à Cuba ou je suis allé en République dominicaine, j'ai attrapé la COVID là-bas, on m'a amené dans un hôtel minable, j'ai mal mangé, je me sentais pas en sécurité. » Et puis ces gens-là disent « Ben finalement, je me suis tourné vers une agence de voyage, mais comme j'avais pas réservé avec une agence de voyage, ils n'ont rien pu faire pour moi. C'est pas une très bonne idée de voyager en ne passant pas par une agence de voyage.
Ben, écoutez, c'est sûr, je vais prêcher par paroisse, hein, Mme Durocher, mais ce qu'il faut comprendre, qui est important, là, que le consommateur réalise, c'est que le prix n'est pas moins intéressant dans une agence de voyage. C'est exactement le même prix que ce soit sur Internet, en direct ou dans une agence de voyage traditionnelle, autant au téléphone qu'en personne. Parce que l'agent de voyage touche une commission sur le prix qui est déjà incluse dans le prix. Donc, réservé via l'agent de voyage, ça va être le même prix et vous allez avoir tous les services nécessaires, tant avant la vente, là, pour ce qui est nécessaire au niveau des tests, des vaccins, ces choses-là, et après la vente et au besoin pendant le voyage, si vous êtes à destination. Maintenant, juste un petit bémol, Cuba a revu sa position. Il n'isole maintenant plus les voyageurs dans des hôtels-prison, à moins qu'ils aient des symptômes graves. Donc, les histoires d'horreur qu'on a entendues avant les fêtes, ce n'est plus applicable à Cuba. Maintenant, Cuba, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont isoler les gens, comme plusieurs autres pays, dans le même hôtel qu'ils étaient, mais dans un édifice séparé.
D'accord. Ça me fait toujours rigoler les gens qui se sont plaints au cours des dernières semaines en disant « Ben là, l'hôtel où ils ont amené, on a mal mangé. » on mange toujours mal à Cuba. Et aussi, l'autre chose, c'est que ben, à Cuba, il y a plein de gens dans la population qui ont des problèmes pas mal plus graves que juste des touristas qui sont pognés pour manger des œufs durs pendant deux jours. Là, je trouve qu'il y a des gens, des fois, qui se grattent le nombril et qui se grattent le petit bobo sans penser aux gens qui vivent dans le pays qu'ils visitent. Mais la meilleure, c'est quand même cette femme, cette trifluvienne qui avait voyagé à Cuba puis qui disait « Comment ça se fait? Tout le monde me parle en espagnol. » Ben oui, t'es à Cuba, les gens parlent en espagnol là-bas. Bon, Monsieur Côté, merci beaucoup d'être venu nous parler, puis bonne chance, bon courage hein, pour le milieu des agents de voyage. C'est pas rassurant, mais on espère que le gouvernement va peut-être bouger là-dessus puis se rendre compte que ça n'a pas de sens vraiment ces mesures-là. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui.
Toujours un plaisir, Mme Desrochers.
Moscou Côté, donc, est président de l'Association des agents de voyage du Québec, qui réagissait à cette nouvelle. Donc, les deux plus importants transporteurs aériens au pays qui ont demandé à Ottawa d'arrêter d'obliger les passagers à passer un test PCR, d'autant plus qu'il y en a déjà un qui doit être fait avant l'arrivée en sol canadien.